France Info.
L'invité culture, désormais le week-end sur France Info, le samedi et le dimanche. Et pour inaugurer ce rendez-vous, je suis ravi de recevoir un écrivain qui offre avec une grande sincérité en cette rentrée à ses lecteurs nombreux et fidèles le chaînon manquant d'une œuvre qui se confond souvent avec sa vie. Bonjour Serge Chalandon.
Bonjour.
Entre le petit Bonzi, enfant bègue, brutalisé par un père raciste et antisémite, et le grand reporter écrivain dans les terrains de guerre, comme l'Irlande, le Proche-Orient sont la matière des romans, il y a donc le jeune adulte qui a connu la rue dans toutes ses dimensions, et c'est ce que vous racontez dans le livre de Kells publié chez Grasset, La rue d'abord qui use, une année d'errance sans domicile fixe à Paris au début des années 70. Pourquoi partager aujourd'hui avec vos lecteurs cette partie de votre vie?
Je crois que j'ai pas osé en parler d'abord. C'est difficile, lorsqu'on a vécu dans la rue, quand on a touché à la drogue, de parler de ça, de raconter ça, d'avouer ça. En fait, dans ce livre, il y a plusieurs aveux. J'ai 73 ans. Lorsqu'on rentre en crépuscule, il vaut mieux dire les choses lorsqu'on est encore en vie. Et donc, j'ai eu envie de raconter, parce que c'est ce que me demandaient les gens dans les salons du livre, dans les rencontres. D'accord, vous avez été à Libération, d'accord, vous avez fait tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez claqué la porte de chez vous à 17 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé où? Vous avez rencontré qui?
Et vous disiez quoi? Vous mentiez comment?
Je ne mentais pas. Je disais que j'étais dans la rue, mais je ne l'avais pas écrit. Et beaucoup de gens, ça fait des années qu'ils me disent « Mais pourquoi vous n'écrivez pas ça ?» Et je disais « Parce que je n'ose pas écrire ça. » Parce que ça donne un livre qui est clivant. Il y a la rue, évidemment, mais il y a la violence aussi, la violence politique. Et tout ça, je n'osais pas l'affronter. Et je crois que j'ai l'âge de l'affronter aujourd'hui.
La violence politique, on en parlera. Restons dans la rue qui use. D'abord, le froid, la faim. Chien des rues, écrivez-vous, la drogue, vous en avez parlé, la violence. Quand on vous lit, quand on sait ce que vous avez fait après, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer ce qu'aurait pu être votre vie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse encore ou pas du tout?
D'abord, ça me traverse toujours. C'est-à-dire que si j'avais eu un père lyonnais radical socialiste amoureux de Édouard Herriot, je pense que je serais prof, j'espère. Je pense que voilà, j'aurais été élevé dans la bonté, dans la beauté.
Mais si vous n'aviez pas croisé des militants politiques, des Mao, la gauche prolétarienne dans la rue après cette année,
je crois que je serais mort. Je pense, j'ai eu deux ou trois moments de rue où la mort n'était pas très loin. Je ne pouvais pas retourner chez moi parce que j'avais fui chez moi. Je ne pouvais pas, comme un soldat vaincu, me rendre à l'ennemi, à mon père. Je me suis retrouvé dans des moments où je ne voulais plus vivre. Donc si la mort n'avait pas voulu de moi, moi je serais allé vers elle. Et c'est vrai qu'on m'a tendu la main à un moment donné où j'étais vraiment tout seul, effrayé. J'ai vécu dans ces 9 mois dans l'effroi absolu. Je pense que j'aurais très très mal terminé ma petite vie, en fait.
La rue qui sauve, on en a parlé, cette rencontre fortuite, vous qui étiez plutôt dans les années post-68, Peace and Love, Katmandou.
Ah bah, j'étais comme tout le monde.
Là, c'est l'autre frange post-68, voilà. Les radicaux, les Mao, la gauche prolétarienne. Et d'une certaine manière, vous trouvez une famille, là.
Pas d'une certaine manière. C'est-à-dire, la première chose que je veux retrouver, c'est un toit, si possible, et des gens qui m'aiment.
Une boîte aux lettres.
Mon rêve d'avoir mon nom sur une boîte aux lettres et d'avoir un petit nain de jardin. Je trouvais que le nain de jardin, c'était la preuve qu'on avait réussi sa vie. J'avais 17 ans. Tout d'un coup, je me retrouve avec des gens qui vont me proposer des choses, qui vont me proposer une intelligence que je n'avais pas, qui vont proposer des connaissances que je n'avais pas.
Passer le bac que vous n'avez pas.
Passer le bac et qui me proposent des choses que je ne soupçonnais pas. La culture, la beauté, la littérature, le théâtre. Il y a de la violence, bien sûr, parce que c'est un mouvement violent, mais la France entière était violente. L'extrême droite était violente, la police était violente, les patrons étaient violents. Donc je me retrouve là-dedans, et en même temps, je sais que sans eux, le trottoir avait faim de moi. Mais faim de moi, comme on a faim d'un petit oiseau tombé du lit, et j'aurais pu être écrasé par la rue.
Ce terrain de combat de la rue, vous le politique, vous le racontez avec beaucoup de sincérité, là aussi, les questionnements, jusqu'où ce combat, faut-il aller jusqu'à la lutte armée, les convictions aussi. Mais pour vous, c'est quand même assez simple, c'est mon père était un collabo, je suis un résistant.
J'espère que je ne suis pas juste ce que mon père n'était pas.
Parce que ça veut dire que si
mon père avait été un radical socialiste, aujourd'hui je serais au Rassemblement National. C'est trop simple. Mais oui, vous avez raison. C'est-à-dire que chaque fois que je me retrouvais, moi, avec une barre de fer face aux gens d'ordre nouveau à l'époque, c'était mon père qui était en face. Lorsque je dis que mon père était raciste, on ne voit pas bien ce que c'est. Mais un jour, mon père, à Lyon, c'était en pleine guerre d'Algérie, il rentre à Lyon un soir et il a sa gabardine couverte de sang. Et ma mère dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Rien, rien. » Un arabe m'a regardé de travers, un bico, m'a regardé de travers et je l'ai dérouillé. Moi, j'assiste à ça. Et j'assiste à ma mère qui le regarde en disant « Oh, t'exagères, parce que comment je vais ravoir le sang sur ta gabardine ?» Je viens de ce monde-là, moi. Donc évidemment, tout ce qui est contre ce monde-là, tout ce qui est en face de ce monde-là, tout ce qui pense différemment de ce monde-là, j'y adhère.
Ce sont les années 70. Il y a des résonances aujourd'hui. Je voudrais qu'on en prenne une seule, peut-être. Les divisions de la gauche d'aujourd'hui sur la question israélienne et palestinienne, oui. Elles sont de même nature. C'est pas le 7 octobre et le Hamas. C'est Munich 72 et le commando qui assassine des athlètes israéliens. On est frappé de... Il y a les mêmes choses, oui. Les mêmes débats.
Alors, ce sont les mêmes choses et les mêmes débats, sauf que, d'abord, l'islam radical n'existe pas. Il n'y avait pas ce côté juif messianique. L'extrême droite nous appelait les judéo-bolcheviques. On criait « Nous sommes tous des juifs allemands » et tous nos chefs à l'extrême gauche étaient juifs.
Mais il y avait « Est-ce qu'on pardonne tout à la cause palestinienne ?» parce qu'elle est juste, et y compris jusqu'au meurtre.
Voilà, et donc là, on s'est divisé. Aucun chef d'extrême gauche pouvait être traité d'antisémite, ils étaient juifs. Et tout d'un coup, brusquement, des copains dans notre mouvement, y compris des copains des comités Palestine, ont commencé à nous dire « Mais vous saviez qu'un tel, c'est pas son vrai nom et qu'un tel est juif ?» Et moi, je disais « Mais quoi ?» Et alors, bah, il est juif, Sorge. Et alors, bah, il est juif. Et tout d'un coup, il y avait une césure que je n'avais pas vu venir et qui s'est imposée dès cette année-là, c'est-à-dire Munich. Et oui, on en est encore là.
Je voudrais qu'on termine avec ce mot que vous avez employé, copain. On s'attend à trouver camarade à toutes les pages.
Non,
dans ce livre.
Copain.
On trouve copain, c'est comme ça que vous appeliez entre vous. Et c'est l'humanité et la fraternité, ouais, qui restent au-delà des luttes, au-delà de tout.
Au-delà des luttes. Et puis, camarade, c'était trop violent, c'était ceux de nos pères. Mais copain, je trouve ça tellement beau. On était un groupe de copains qui interdisons que d'autres, que des hommes, se moquent de nous, se moquent des plus faibles, se moquent des plus arabes, des plus juifs, des plus tristes, des plus pauvres. Et chaque fois qu'il y avait oppression, bah les copains organisaient la résistance.
Il y a encore les copains aujourd'hui ?
Ouais.
Ouais.
Bah, y en a des jeunes, et puis bah, les vieux copains, on se retrouve, puis on pleure un peu quand même. On est orphelin d'idéologie, d'abord, ça c'est la première chose. Et ça s'appelait « La cause du peuple », notre journal. Et puis un jour, on s'est retourné, on s'est dit « Mais le peuple, il est où, au fait ? Il est où, le peuple ?» Et le peuple, il n'était pas là. Et on s'est retrouvés entre copains, orphelins et seuls. Et c'était bouleversant.
Et après la cause du peuple, il y a eu Libération. Ça termine là-dessus, votre livre.
Voilà.
L'entrée à Libération, ce qui
c'est-à-dire
sera
que nos chefs qui ont décidé de dissoudre ce mouvement, ont décidé de créer Libération. Et on est passé, si je puis dire, c'est assez vilain comme expression, des points dans la gueule au point d'exclamation. On est devenu journaliste.
Sorge Chalandon, merci infiniment. Le livre de Kels, publié chez Grasset. Merci d'être passé par France Info.
Merci à vous.
Et demain, encore une histoire de fraternité et de maladie mentale. Là, un frère de David Thomas qui sera l'invité culture de France Info.